Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio avec Georges Kuzmanovitch, président de République souveraine et candidat à la présidentielle. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour Christine, il fait beau à Toulouse?
On attend que ça se lève.
Ah bon, chez nous il fait beau. Jade Zahab, essayiste, vous avez publié Retrouver la République. Bonjour.
Bonjour.
Et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence et co-président d'Opinion Valais.
Et bonjour.
Bonjour, Macron face à la France en colère, on va y revenir, cette fracture où on voit bien qu'il y a quand même un vrai problème d'unité dans ce pays. Est-ce que ça va être durable? On va parler du septennat, c'est une idée évoquée par Emmanuel Macron et puis les Républicains. Également en difficulté, c'est fait partie des sujets qu'on va évoquer. Et puis notre baromètre, notre balise IFOP Sud Radio qui a relevé les traits d'image comparés d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Eh bien, Marine Le Pen s'en sort nettement mieux qu'Emmanuel Macron. Ça rentrera dans nos débats. Alors, coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, Christine.
Alors, ça rejoint un peu le débat sur qu'on va avoir, mais je suis très surprise des opérations de communication des entreprises. J'ai reçu ce matin un communiqué d'une entreprise de bouteilles d'eau, qui va profiter de l'entre-deux-tours pour inciter les gens à aller voter avec des bouteilles spéciales. Bon, soit, c'est un argument commercial comme un autre, mais je me demande si lutter contre l'abstention peut être un argument commercial aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on va évoquer ensemble, de l'état de fracturation, de l'état d'interrogation, de l'état de sidération du monde politique aujourd'hui, dans tous les partis, par rapport au deuxième tour qui se profile. Ouais. 12 millions de personnes ne sont pas allées voter. 12 millions de personnes. Ouais. Alors, pour différentes raisons, des problèmes d'inscription sur les listes électorales, de durée trop longue devant les centres pour voter, devant les écoles, les mairies, enfin, que sais-je. Ouais. Mais ça n'explique pas les 12 millions. Mais je m'étonne toujours, et je l'avais déjà dit dans cette émission, qu'on ne soit pas plus en amont à préparer les personnes à aller voter. Voilà, tout simplement. On est toujours un peu à courir derrière le truc. Alors après, il y a des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien. Mais cette abstention record, commence à être...
Est-ce que la préparation sert à quelque chose? J'ai un ami restaurateur qui a plusieurs restaurants. Avant le premier tour, il a demandé à ses 55 salariés, est-ce que vous allez aller voter? Sur les 55, il y en a 8. 8 qui ont dit oui. Donc il a posé la question en disant pourquoi vous n'y allez pas? Des jeunes, plutôt jeunes, serveurs, etc. Ça change rien, ça m'intéresse pas. Je me suis pas occupée. Alors là, il y en a effectivement. Je me suis pas occupée de mon inscription, mais 8 sur 55, sur des 25-35, ce qui correspond à cette abstention, c'est tout. Jérôme Ripoul.
Oui, non, tout à fait. J'espère que la marque qui vous a envoyé, Christine, cet objet publicitaire, en tout cas cette sollicitation, a fait un bon slogan. Chaque voix est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait...
Il y a marqué voter sur la bouteille.
Il y a marqué voter.
Mais enfin, c'est parrainé par le gouvernement. Hein, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, Christine, qui a commandé ces bouteilles. Hein.
Ah, c'est le gouvernement. Oui. Ah, ok, d'accord. Ouais. Donc c'est pas une marque, c'est le gouvernement. L'abstention aujourd'hui, c'est un peu comme un match, cette élection.
J'ai pas vu, moi, cet aspect-là, mais bon.
C'est un peu comme un match, cette élection. C'est-à-dire que, ou comme un débat. C'est-à-dire que, il n'y a pas eu de débat. Donc il n'y a pas eu d'intérêt et donc il y a une désaffection. Donc il y avait des gens qui étaient très politisés, on l'a vu chez LFI, au Rassemblement National et autour de Macron, qui se sont mobilisés. Et puis une grande partie des électeurs, ils se sont tenus à l'écart de cette élection.
Je suis d'accord avec vous, je vous rejoins là-dessus, mais on a quand même aussi interviewé les gens qui disent « je suis mieux à la plage que dans un bureau de vote ». Donc il y a aussi une forme de... Le côté « ça ne sert à rien ». Moi, ça me stupéfait.
La faute à qui aussi, non?
Bah oui, moi,
je suis désolée Valérie, on a, quand on a 18 ans et qu'on on devient majeur, moi j'ai discuté avec des jeunes pareils, hein, comme vous, qui, voilà, est-ce que vous allez voter, pas voter, etc. Je leur dis, mais à 18 ans, qu'est-ce qui change dans vos vies? Bah, on peut conduire et on a le droit de vote. Et bah, tu l'utilises son droit de vote? Bah non. Ça m'interpelle vraiment sur notre rôle de citoyen.
Georges, un mot?
Je suis moins étonné, on en a déjà parlé plusieurs fois. On a quand même presque 40 ans maintenant de politique en France où les choses ne changent pas réellement. Et donc, est-ce qu'on doit critiquer les citoyens parce qu'ils se rendent compte que les choses ne changent pas? Je parle de l'essentiel de ce qu'est la politique, c'est-à-dire la manière dont on organise la production de la richesse et la répartition de la richesse. Et que l'on ait voté PS ou que l'on ait voté UMP, LR, et puis après LREM, bah, ça ne change pas vraiment. C'est toujours un peu européiste, c'est toujours des traités de libre-échange. Et certains promettent de lutter contre la finance, ou d'autres que le travail sera mieux rémunéré. Puis en fait, non, ça l'est jamais. Et donc après, c'est le politique qui doit se remettre en cause. S'il y a tant de trahison par rapport au programme qui est proposé pendant les élections, faut pas s'étonner que des gens plus âgés ou plus jeunes n'aillent pas voter, parce qu'ils se disent « bon, autant aller, il fait beau, je vais sortir ». Moi, je ne suis pas surpris. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a non seulement il y a une abstention quand même qui n'est pas la plus importante, elle est quand même très importante, mais il y a aussi quasiment 1 million de votes nuls et blancs. Ce qui est colossal. C'est-à-dire là, c'est des gens qui décident d'aller voter.
Qui vont voter et qui disent « je n'en veux pas ».
Et les nuls, il faut bien se rendre compte que les nuls, c'est quasiment comme des votes blancs. C'est très rare des gens qui ratent leur truc. C'est des gens qui font
exprès, qui déchirent.
C'est une autre manière, en votant, cette fois-ci, mais de dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe ».
Oui, moi je crois que cette abstention, elle traduit ce que j'appelle, et vous avez eu la gentillesse de le citer dans mon dernier livre, la crise des consentements. Il y a une crise du consentement des Françaises et des Français aux règles du jeu démocratique telles qu'elles sont établies aujourd'hui, parce qu'en effet, on considère que les politiques ne nous représentent plus ou qu'ils nous représentent mal. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, on a eu cette abstention croissante qui maintenant est structurelle, c'est plus élection après élection, elle est là, elle est souvent le premier parti de France. Et donc oui, je crois que ça pose la question de comment on réforme nos institutions pour qu'elles soient plus représentatives chez les jeunes aussi.
Il y avait 12 candidats.
Ça montre bien que, et je vous rejoins sur la nécessité d'une meilleure acculturation démocratique, je trouve que c'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire en ce moment. On voit aujourd'hui dans le monde que la démocratie n'est plus la règle, mais l'exception. Et donc, il y a un vrai travail à faire dans le temps long sur comment on s'accoutume à la démocratie, comment on apprend la démocratie. Moi, j'ai la naïveté de croire que c'est encore le meilleur système. Il y a beaucoup de gens qui ne le pensent plus. Et donc, il y a un vrai travail à mener, indépendamment de dans quel parti on est, sur comment on apprend mieux la démocratie. Vous parliez des jeunes, notamment chez les jeunes.
Allez, pause. C'est l'heure du journal sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec vous pour nos débats. Tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, candidat à la présidentielle, ex-candidat à la présidentielle. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Jade Zahab, essayiste et auteur de Retrouver la République. Et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence et co-président d'Opinion Valley. La France divisée, la France coupée en deux, plusieurs millions de personnes qui ont voté et qui vont voter pour Marine Le Pen, plusieurs de très nombreux abstentionnistes, on en parlait avec Christine Bouillot, des gens qui votent blanc, un certain mécontentement face à la politique du président de la République. Est-ce que c'est une rupture durable? On va parler de l'éventualité du retour au septennat et puis de la situation chez les Républicains. On continue notre tour de table. Georges Kuzmanovic, votre coup de gueule?
Mon coup de gueule, c'est... En ce moment, on a une escadre, l'escadre du Charles de Gaulle, qui est déployée en Méditerranée orientale, qui fait des manœuvres avec la flotte libanaise. Et on apprend que la dernière ligne de défense du Charles de Gaulle, donc qui est le fleuron, notre porte-avions, le seul, malheureusement, fleuron de notre défense et de notre flotte, qui est protégée donc par une frégate, la frégate Normandie. Et la frégate Normandie, on vient d'apprendre qu'elle n'avait pas de système de brouillage antimissile. Or, ils viennent de faire des manœuvres avec la flotte libanaise au large du port de Tarsus, qui est le port stratégique de la Russie, qui, elle, a déployé plus de 20 navires de guerre dans la Méditerranée et spécifiquement dans la Méditerranée orientale. Ça veut dire que s'il y avait eu un moment de combat, ou ne serait-ce que de tensions fortes entre les deux flottes, comme c'est arrivé en 2020 avec la flotte turque, où le Courbet, la frégate Courbet, avait été flashée au laser par, sans que jamais on ne proteste d'ailleurs, par la flotte turque, eh bien, on aurait dû reculer. Mm. Bon, eh bien, c'est pas sérieux.
Ouais.
Et c'est la raison, c'est qu'il n'y a pas assez de budget. Et donc, ils ont enlevé les radars, enfin, le système antimissile, pardon, du Normandie. Ils l'ont mis sur celle qui est en train d'être produite, la FREM, la frégate multimission Lorraine, qui va sortir en 2022. Mais il n'y en a pas assez de moyens.
Ouais.
Alors, certes, Emmanuel Macron a augmenté le budget de la défense, mais ça ne sert, enfin, augmenter le budget de la défense sans avoir de vision stratégique et de qu'est-ce qu'on doit construire, mais juste suivre bêtement les recommandations de Washington et de l'OTAN et de faire du système militaire otanien et de courir derrière cette chimère absolue qui est la défense européenne au lieu de s'occuper de ce dont on a besoin. Ouais. Et on a besoin d'une flotte. La Chine, tous les 4 ans, pardon, produit l'équivalent de la flotte française.
C'est colossal, oui.
Nous avons la deuxième surface maritime mondiale. Les Chinois, surtout dans le Pacifique, regardent ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de ressources.
Ouais.
Vous savez combien on a de ne serait-ce que de bâtiments des douanes ?
Non. Zéro.
Zéro. Zéro. C'est la moitié de la planète. Il n'y a pas de bâtiment des douanes. Ce qu'il faudrait, c'est augmenter notre flotte. Ça demande un investissement dans notre intérêt et pas suivre je ne sais quels intérêts autres qui sont principalement ceux des États-Unis. On délaisse totalement cette surface maritime qui est un élément de puissance à l'avenir, en particulier dans la course aux ressources. Je trouve ça tragique et c'est très très agaçant.
Ça veut dire que le porte-avions Charles de Gaulle est sans protection ?
Ah non, ils ont quand même des protections, mais c'est la dernière ligne. Et si un missile qui arrive, vous avez un système antimissile qui protège le Charles de Gaulle. Si un missile était tiré. Puis là, on a, pour ceux qui suivent, le navire amiral de la flotte russe de mer noire, le Moskva, a quasiment été détruit. Alors, ils disent qu'il y a une explosion à l'intérieur, mais en fait, c'est un missile qui a été tiré, peut-être un missile Neptune, par les Ukrainiens. Bon, bravo pour eux. Mais voilà ce qui arrive. Si vous avez un missile qui vous tape et que vous... Et eux, ils avaient un système de défense antimissile. C'est 3 milliards qui partent en fumée. C'est notre seul porte-avions. Enfin, c'est insensé.
C'est l'intérêt de ce tour de table, c'est d'apprendre des choses qui nous ont échappé dans l'actualité. Oui,
ce que je voulais dire, c'est que je note une chose. C'est que depuis 1995 et le moment où... Enfin, la suppression de... c'est pas 95 d'ailleurs, la suppression du service militaire...
99.
Voilà.
C'est 97.
L'armée s'est, de façon extrêmement consciencieuse, fait enlever un nombre de crédits incroyable, et il n'y a eu... Alors, on l'appelle la grande muette, mais elle n'a protesté de rien. C'est incroyable. Et il n'y a aucune organisation du lobbying militaire à l'Assemblée ou dans la société. C'est-à-dire, ça, c'est un vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, pour défendre les crédits, les budgets militaires, quand vous avez une commission comme celle de l'Assemblée nationale qui a changé avec Emmanuel Macron, et qui a été occupé par des nouveaux députés qui ne connaissaient pas le budget de la défense, voire qui n'étaient pas des spécialistes, parce qu'on avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de spécialistes dans la commission, eh bien, vous vous retrouvez avec des gens qui sont incapables de juger si notre budget militaire est à la hauteur ou pas. Mmh. Et ça, c'est un énorme souci.
Je vous coupe. Ça a été la première dispute avec Emmanuel Macron, c'était le général de Villiers.
Exactement.
C'est dans cette commission, le général de Villiers... La protestation qu'il a faite, vous savez ce que c'était ?
Non.
C'était de répondre aux questions de ses députés et de leur dire, avec les moyens que j'ai, je ne peux pas faire toutes ces missions-là. C'est pas possible. Ça a choqué et énervé Emmanuel Macron.
Ce qui a choqué, c'était pas qu'il ait fait cette déclaration, c'est que les travaux de la commission de la défense à l'Assemblée nationale se font à huis clos, tout simplement parce que l'armée obéit aux politiques. C'est encore, je crois, un des principes fondamentaux dans une démocratie, que les militaires ne soient pas indépendants. Ils sont soumis au pouvoir politique et je crois que le président de la République a voulu rappeler simplement que, en effet, ça se fait à huis clos à l'Assemblée nationale et en portant cette parole, je crois, de manière publique, il a rompu ce devant-là. Mais je suis d'accord avec vous. Les budgets, les crédits de cette mission-là. Il y a eu une loi de programmation militaire qui, pour le coup, justement, évidemment, ne peut pas rattraper 35 ans d'incurie budgétaire en la matière. Mais il y a une progression. Moi, j'espère et je pense que le conflit en Ukraine aujourd'hui va très clairement pousser. Et je crois que c'est dans le programme du président, d'ailleurs. pas dire de bêtises, qui a une montée en puissance encore du budget de la défense, avec surtout la question numérique, la question du cyber, toutes ces questions-là qui vont monter en puissance. Aussi. Et il y a un fameux, alors c'est un terme un peu plus précis que ça, un livre technique, un livre blanc de la défense, de l'Europe de la défense. Bon. Je partage le constat et je pense que c'est un sujet auquel on répondra dans les prochains jours.
Alors, Jadzad, votre coup de gueule.
Oui, alors c'est un coup de gueule et vous commencez à me connaître, il n'est pas nouveau, contre l'instrumentalisation du principe de laïcité, notamment par l'extrême droite ces derniers jours. Alors, quelle est la prise dans l'actualité ? Marine Le Pen a annoncé souhaiter interdire le port du voile dans l'espace public en disant que ça entraînerait une contravention. Il me semble que cette mesure pose deux problèmes. Le premier, est-ce qu'elle interdit le voile ou tous les signaux ostensibles, la croix, la kippa ? Jordan Bardella a répondu hier soir, elle n'interdit que le voile. Donc, elle crée de facto dans la loi une inégalité entre les citoyens, une rupture d'égalité. Deux, si elle interdit le voile et même si elle interdisait aussi tous les autres signes ostensibles, elle incarnerait une méconnaissance flagrante, une mésinterprétation de la loi de 1905. Ce qui me permet de, mais je le fais souvent d'ailleurs ici chez vous et je vous en remercie, de faire un énième rappel sur ce qu'est le principe de laïcité. La laïcité, ça n'est pas la neutralité de la société, c'est la neutralité de l'État. Ça n'est pas la neutralité des citoyens, c'est encore moins la neutralité de la France. Alors on nous dit, oui mais nous, c'est pas parce qu'on est des féministes, qu'on veut interdire le voile dans l'espace public. Alors, sans doute ai-je mal compris, mais pour moi, le féminisme, ce n'est pas de dire aux femmes comment elles doivent s'habiller, c'est au contraire leur laisser le droit d'être les maîtresses de leur propre corps. Alors, féministe, je défends le droit des femmes à s'habiller comme elles le souhaitent. L'habit en question, fut-il un voile, un crop top ou une jupe ?
Et moi, je le dis très clairement. Le voile n'est pas un crop top, le voile n'est pas un vêtement comme un autre.
Qui sommes-nous ? Ah bon ?
Non,
qui sommes-nous pour dire aux femmes comment elles doivent s'habiller ?
Moi, je le dis très clairement. C'est un marqueur identitaire.
Absolument pas. Quiconque prétend dire à une femme comment elle doit s'habiller, contre son plein gré, et tout, sauf un féminisme.
Vous savez qu'il y a des femmes qui meurent parce qu'elles veulent retirer le voile ?
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, on nous dit, mais regardez, en Afghanistan, en Iran, en Égypte, en Tunisie, les femmes se battent pour enlever leur voile. Non, mais bien sûr. Mais enfin, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable.
Ah bon ?
L'Iran n'est pas la France. L'Iran n'a pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'Iran n'a pas la séparation de l'Église et des États. L'Iran n'a pas non plus un État qui permet de protéger les femmes.
Vous me répondez ?
Moi, je le dis très clairement.
Pourquoi le voile ?
Pourquoi est-ce qu'on autorise des femmes
pas.
À s'habiller comme elles le souhaitent. Mais parce qu'on part du principe qu'il y a un libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, et s'il y a une emprise, là, il faut tout faire en effet pour que les femmes.
L'islam politique, ça vous dit quelque chose ou
pas ? Bien sûr,
l'islam politique, ça vous dit quelque chose ?
J'ai travaillé sur ces questions-là, et donc il n'y a absolument rien à répondre à ça. Alors, moi, je le dis, je le rappelle.
Mais si il y a à répondre, c'est quoi l'islam politique ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est quoi l'islam politique ? Il y a une revendication. Bien sûr, il y a une revendication identitaire aujourd'hui qui existe dans le pays. Mais ne dites pas que. Enfin, c'est pas ce que. Je dis pas ça pour vous. Je dis ça pour l'extrême droite xénophobe et raciste.
Quand alors, si on est contre le voile,
l'extrême droite xénophobe et raciste dit c'est au nom de la laïcité qu'on va interdire les signes ostensibles et plus particulièrement le voile dans l'espace public, elle se trompe et elle ment. Ce n'est pas au nom de la laïcité parce que c'est quiconque prétend interdire un signe ostensible dans l'espace ne le fait pas. Pour la laïcité, mais contre la laïcité. C'est au mieux une obsession identitaire et on peut en parler de cette revendication. Au pire, c'est une volonté d'épuration de l'espace public.
Très clairement. Ce qui me choque dans les propos de Bardella, c'est qu'il ne veut interdire que le voile. Ça me choque parce que là, effectivement, il vise une communauté. Quand bien même, effectivement, on peut discuter de la signification du voile.
Bien sûr.
Et ça me choque.
Bah, c'est pas quand bien même.
Donc, je veux dire, par là, moi, ce qui me choque dans le raisonnement de Bardella, c'est ça. La deuxième chose, de toute façon,
c'est impossible de l'interdire dans l'espace public. C'est là où moi, j'ai une vision.
Ce que vous venez de dire sur la laïcité, tout à fait exact. C'est que la laïcité, on neutralise l'État vis-à-vis des religions. Enfin, les religions vis-à-vis de l'État. Mais moi, très franchement, aujourd'hui, je ne serais pas choqué en tant que catholique, mais profondément laïque, je ne serais pas choqué qu'on interdise tous les signes ostentatoires dans l'espace public, parce que ça peut gêner des gens. Et moi, je trouve que c'est un marqueur qui nous distingue. Et moi, j'ai pas envie qu'on me prenne en tant que catholique, j'ai envie qu'on me prenne en tant que citoyen, en tant qu'humain, et je n'ai pas envie de regarder telle ou telle personne en fonction de sa religion. Ça, c'est quelque chose qui... Donc moi, la laïcité, vous l'avez très bien définie, effectivement, c'est pas la loi de 1905, mais je ne serais pas choqué qu'on l'étende plus généralement.
Dans ce cas, il faudrait changer la loi de 1905.
On est d'accord.
Donc, une autre vision de la laïcité.
Georges Kuzmanovitch.
Alors, c'est pas tant une autre vision de la laïcité. Je vous rappelle que la loi de 1905, dite sur la laïcité, est un compromis. Mmh. Est un compromis après 130 ans, en partant de la Révolution française, mais beaucoup plus long avec les rois de France, de lutte contre la prééminence du religieux dans la société, à l'époque, la religion catholique. Et ça a été extrêmement difficile. à un niveau que très peu de, je crois, de gens accepteraient aujourd'hui si on l'appliquait à l'islam. Pendant 25 ans, entre 1880 et 1905, plus de 700 congrégations ont été chassées, manu militari, avec la troupe, et les gens étaient déportés. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ben, allez vivre en Belgique ou en Allemagne si vous ne voulez pas vivre sous les lois de la République. C'était l'époque d'Émile Combes, c'était extrêmement, extrêmement dur. Avant cela, il y avait eu, pendant la Révolution française, la constitution civile du clergé, donc on mettait les prêtres à genoux pour qu'ils prêtent serment et qu'ils n'obéissent plus au Vatican. Après, il y a eu le concordat de Napoléon. Il a dit non, 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 vous ne choisissez plus vos évêques et vos trucs. C'est moi qui les choisis. Et puis, ils m'écoutent. Et puis, le Vatican n'a qu'à se taire. C'était une longue guerre avec, y compris, des mesures interdiction de circuler en soutane, d'établir en nonne, tous ces trucs-là. Parce qu'à l'époque, le catholicisme avait des gens qui voulaient marquer l'espace public. Et comme c'était la religion qui était à affronter parce qu'elle avait une volonté de peser dans la société, il y a eu d'énormes combats qui sont aboutis finalement à la loi de 1905 et un élément d'apaisement. Là, on a quand même dans l'islam politique, ce n'est évidemment pas tous les musulmans, des gens, et puis certains qui mettent le voile, enfin ça dépend de quel voile on parle, on sait très bien que les gens mettent un petit voile, ça n'a rien à voir, d'autres mettent un voile ostensible, des niqab intégral, voire les burqas. C'était quasiment le cas de cette dame qui a rencontré le président de la République. Là, on est dans une affirmation politique du fait religieux dans la société. Et c'est exactement ce qui s'est passé jusqu'en 1905. Je pense qu'il y a un combat à mener qui n'est pas contre les musulmans, qui n'est pas contre l'islam, qui est que, alors, comme le disait Victor Hugo, l'État chez lui,
il faut qu'on marque une pause, c'est la pub. Et Christine, vous nous direz ce que vous en pensez. Ce que vous avez pensé hier aussi de l'interpellation du président de la République à cette femme voilée. Vous êtes féministe, est-ce que vous le portez de façon volontaire, on y revient dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et débat avec vous sur Sud Radio avec Georges Kuzmanovic, Christine Bouillot, Jadzab et Jérôme Ripoul. Christine, ce débat autour de la position de Marine Le Pen et puis de celle d'Emmanuel Macron qui a légèrement, hier, on a senti qu'il y avait quand même un petit peu de discours politique dans la réponse, dans les questions qu'il a fait à cette femme. Mais sur ce que disait Jadzab, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ça rejoint. Ce qui s'est passé aussi avec Emmanuel Macron pose la double question du féminisme et de la loi de 1905. Mmh. Et très sincèrement, si on regarde dans l'histoire, et il suffit de se replonger dans les analyses d'une certaine Elisabeth Badinter, qu'on ne peut pas taxer d'antiféminisme primaire, la loi de 1905, c'est certainement ce qui a permis aux femmes d'obtenir le plus d'avancées de toute leur histoire, de toute l'histoire. Donc je pense que se battre sur la question de la laïcité doit être le cœur du fondement de la République. Parce que si on veut parler de féminisme, il faut à chaque fois se référer à la loi de 1905. Et effectivement, l'espace public aujourd'hui est une vraie question clivante. Ce que fait Emmanuel Macron, bon, c'est purement électoraliste. Enfin, c'est comme ça qu'on on peut le lire.
Marine Le Pen aussi.
Marine Le Pen aussi. Et les Français sont perdus dans tout ça. Les Français se sont dressés les uns contre les autres sur ce sujet-là. Et la place de la femme, parce qu'à chaque fois, il faut repenser aux femmes, la place de la femme, c'est de pouvoir justement se reposer ou en tous les cas se protéger derrière cette loi 1905 sur la laïcité. Sans laïcité, il n'y aurait pas eu d'avancée pour les femmes, franchement. Mmh. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces questions-là ne peuvent pas être tranchées. Je trouve que c'est vraiment par le petit bout du bulletin électoral que les candidats aujourd'hui dressent les uns contre les autres. Et le féminisme, qui n'est pas un vilain mot, aujourd'hui, est malheureusement malmené pour différentes raisons. Et c'est justement en période de crise, comme on vit aujourd'hui, que ce principe-là et ces principes-là sont aujourd'hui peuvent être en danger. Donc je pense qu'il faut vraiment que la place des religions soit vraiment discutée dans un débat apaisé aujourd'hui, mais qu'on remette les choses. Et effectivement, le port du voile dans l'espace public, Valérie, vous avez raison, aujourd'hui est devenu un enjeu. Et un enjeu politique pour tous. Et si
Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
Et si
Mais pourquoi si, c'est pas si, un
argument? C'est devenu, parce que mais je voulais pas vous interrompre, pardonnez-moi.
Le
principe lui-même est instrumentalisé. Moi, j'entends qu'on dise il faut qu'on change la loi de 1905, mais qu'on ne dise pas que c'est pas ce que vous disiez d'ailleurs, qu'on ne dise pas c'est au nom de la loi telle qu'elle est aujourd'hui qu'il faudrait interdire la laïcité. D'ailleurs, quand on a interdit le voile intégral, quand on a interdit le voile intégral, la burqa, Valérie Pécresse en parlait souvent. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a fait en 2008. On ne l'a pas fait au nom de la laïcité. On l'a fait au nom des troubles à l'ordre public. C'était une loi sécuritaire et pas au nom du principe de laïcité. Ça, je crois que beaucoup de gens l'oublient.
Dans les écoles,
2004, tout à fait. Mais pourquoi? Parce que, et là où on se rejoint, c'est que nous sommes pour que les femmes s'habillent librement comme elles le souhaitent et que leur conscience, que personne ne les force. Donc pourquoi est-ce qu'en 2004 on l'a fait? Parce qu'on considère qu'à l'école, au collège et au lycée, les femmes les jeunes filles sont en construction de leur esprit critique et que donc là-bas, il n'y a pas de fait moral, de fait total qui s'impose à elles. Moi, c'est tout ce que je dis. Éric Zemmour, d'ailleurs, disait, moi, je veux changer la loi de 1905 pour qu'il n'y ait plus de si nulle part. Si on fait ça, il faut bien que les gens comprennent, on change la laïcité. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on dise la laïcité telle qu'elle est écrite aujourd'hui devrait nous conduire à interdire. Ça, c'est faux. Ça, c'est une mésinterprétation. Ensuite, on peut débattre. C'est un autre sujet et on peut en discuter. Mais sur le féminisme, moi, je suis toujours gêné parce que j'ai appris, mais peut-être, encore une fois, ai-je mal appris, que le féminisme, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps. Pour moi, si on rajoute un « mais » juste après, c'est qu'on n'est plus dans le féminisme et c'est ça, fondamentalement, qui me pose question.
Je vous pose la question en Iran, en Afghanistan, c'est...
Mais parce qu'en Iran, déjà,
il y a... Est-ce qu'il y a des femmes qui sont mortes de porter un crop top?
Bien.
Est-ce qu'il y a des femmes qui ont été tuées parce qu'elles portaient un crop top ou une mini-jupe?
En Arabie Saoudite ou en Iran, quand les femmes sortent dans la rue, déjà, elles n'ont pas droit... En Iran, en Arabie Saoudite, dans ces pays, il n'y a pas d'état civil. C'est le fait religieux gouverne tout, le privé, le public. En France, on a la chance d'avoir cette séparation entre les églises et l'État. Les femmes ont des droits sociétaux qui ont été durement acquis. Il faut continuer à se battre. Moi, je dis, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable.
Stéphane nous dit pourquoi les femmes dans certains banlieues ne sont pas libres de porter une jupe sans être insultées, donc
c'est un sujet aussi.
J'ai mal.
C'est pas la question de laïcité, mais on voit bien que c'est un sujet de féminisme.
Pardon ? Non.
Je dis deux fois pas que dans les banlieues.
Alors, Jérôme Ripoul, c'était un sujet que je voulais évoquer, on change complètement.
Donc, un coup de gueule qui va ramener la concorde républicaine.
Voilà.
Ce matin, j'écoute la radio, Sud Radio, et j'entends, je ne saisis qu'une bribe, j'entends, il va toucher 66 millions d'euros. Et là, je me dis, un nouveau gagnant à l'euro million. Mais pas du tout. C'est le patron de Stellantis, Carlo Tavares. Qu'est-ce que c'est Stellantis? Il faut quand même l'expliquer aux auditeurs et aux auditrices. C'est le rassemblement de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler. Donc un géant de l'automobile qui a fait en 2021 un bénéfice de 13 milliards 6 ou 4 d'euros. Donc voilà, donc une année exceptionnelle. Et bien donc, c'est l'Assemblée Générale, donc on décide de la rémunération du patron. Et là, on décide 66 millions d'euros. Alors, deux réactions. Première chose, et c'est un patron qui vous dit ça. Donc,
Alors, il y a un salaire fixe, il faut expliquer.
J'arrive, tout à fait. Donc, en fait, il y a eu un vote. En fait, la rémunération de M. Tavares pour 2021, c'est 19 millions d'euros. Et le reste des 66 millions d'euros est constitué par des actions gratuites notamment qui lui seront données au fur et à mesure. Donc ce n'est pas la rémunération de l'année 2021. La rémunération de l'année 2021, c'est 19 millions d'euros. Le reste qui constitue les 60 millions d'euros, c'est des actions qu'on lui donnera gracieusement. Mais deux remarques. C'est quand même une entreprise privée. On pourrait se dire, après tout, l'actionnaire fait ce qu'il veut. Ah ben oui, c'est bien le problème. L'actionnaire, il s'est déjà prononcé, et notamment parmi les actionnaires, la Banque publique d'investissement, elle a voté contre le fait que M. Tavares reçoive 66 millions d'euros. Alors pourquoi on lui a donné 66 millions d'euros? Eh bien parce que Stellantis a un siège aux Pays-Bas, et donc cette délibération est facultative. Première chose. Donc on a quand même l'État qui possède 6% d'une entreprise qui est aux Pays-Bas, et en fait qui fait ce qu'elle veut. La deuxième chose, c'est on pourrait dire, attendez M. Tavares, on l'a dit, 13 milliards d'euros, c'est exceptionnel, il mérite bien ça. Sauf que nous avons un contre-exemple. Monsieur Pouyanné, qui dirige Total Energy, qui a fait pour 2021. Le même bénéfice, plus de 13 milliards d'euros, va toucher, lui, 5,6 millions d'euros, ce qui, avouons-le, n'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
Donc,
c'est
en, déjà... clair, non, enfin... en clair, on a besoin peut-être, alors pourtant, j'étais vraiment pas pour ce débat, mais là, ça donne le vertige, et on pourrait peut-être effectivement penser à des plafonds, ça serait pas complètement fou que d'imaginer qu'on limite les rémunérations.
66 millions d'euros,
alors, mais c'est
180 000 euros par jour.
C'est inimaginable.
180 000 euros par jour.
Voilà, et puis que les patrons n'aient pas eux-mêmes la décence de dire stop.
Alors c'est lissé, en fait, son salaire n'est que de 2 millions d'euros et la part variable constitue la majorité de sa rémunération avec 7,5 millions liés à sa performance en 2021, une prime d'1,7 million liée à la création de Stellantis et des attributions
et
gratuites. Mais...
c'est 2600
alors
c'est
si vous allez, répondre dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Allez, avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Christine, alors un auditeur fidèle me dit les joueurs de foot Mbappé, Neymar et compagnie gagnent 4 fois plus que les grands patrons talentueux. Vous vouliez peut-être ajouter qu'en fait les primes de résultats sont liées aussi aux économies et aux licenciements.
Il y a une partie de la rémunération de M. Tavares qui va porter sur la performance, c'est-à-dire sur la productivité qu'il va gagner, comment en licenciant, il y a 2600 personnes qui vont licencier.
Christine Bouillon.
Oui, alors je comprends donc les enjeux économiques et de performance des entreprises, mais moi je me souviens très bien d'un patron qui s'appelait Louis Gallois, qui était patron de ADS et qui lui qui était qualifié de patron de gauche. Et à l'époque où il dirigeait quand même le consortium européen où il y a eu la fusion entre tous les groupes, a renoncé à toutes ses parts variables. Voilà, il considérait qu'à un moment donné le patron lui-même, je crois qu'il touchait aux alentours de 900 000 à 1 million d'euros de salaire par an. Il considérait que ça suffisait largement et qu'il y avait une question aussi de rapport avec l'échelon du dessous. Donc de lui-même, qu'il était capable de comprendre. Et après, pour en avoir discuté avec les syndicats qui étaient autour de la table pour toutes les négociations autour de ces sujets-là, il disait c'est vrai que ça permettait quand même une discussion nettement plus franche, beaucoup moins tendue, un rapport social qui était complètement différent à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, ces notions de rationalité entre ces salaires, en tous les cas, ce que devrait toucher, parce que tout ça, c'est encore de l'argent virtuel, mais je me demande comment dans les discussions, les négociations salariale, comment dans l'entreprise on arrive à conserver un équilibre sain avec des messages clairs où on demande aux gens d'être en raccord avec les enjeux environnementaux, sociétaux, etc. Donc il y a aussi peut-être de la part des grands patrons dans leur formation une notion de responsabilité à avoir sur, on va dire, le gigantisme. Alors je ne parle pas des États-Unis, mais au moins en France et en Europe.
La RSE, c'est pas...
Ouais, Georges.
Bon, en tout cas, merci à Jérôme Ripoli pour ce coup de gueule qui marque bien où on en est, qui marque bien la période macroniste dans laquelle on est. Moi, je pense qu'on est en 1788. C'est-à-dire qu'on a une métacaste qui vit à Versailles. Alors, c'est un Versailles qui n'est plus localisé à Versailles, mais qui est au-delà des préoccupations des citoyens et qui ne vit pas des règles de droit divin, mais qui vit des règles de libre-échange. Et c'est la société que nous avons construite. Tout à l'heure, Christine parlait du problème du désamour de la politique. Mais effectivement, la démocratie est importante, mais il n'y en a pas en entreprise. Et ce que vous avez souligné très important, c'est que cette entreprise a été délocalisée, enfin, son siège est aux Pays-Bas.
Oui, Pays-Bas, bien sûr.
Ça, c'est le vrai sujet.
Alors, il y a une auditrice qui me dit, pouvez-vous rajouter comme info que tous les salariés du groupe dans le monde ont touché 5 000 euros de primes, 2 milliards redistribués aux salariés.
Ceux qui sont restés dans le groupe.
Sauf les 2600 Français qui vont être délocalisés.
Voilà, oui, mais pour être juste, il faut dire qu'il y a aussi une redistribution.
Heureusement qu'il y a une prime.
Le groupe a gagné 13 milliards.
Donc, heureusement qu'il y a une prime. Mais... pour continuer de ce que je disais, vous avez une entreprise de défense, Nexter par exemple, qui faisait nos chars Leclerc, qui a été fusionnée avec le KWM allemand. Où est son siège social? Aux Pays-Bas. Une entreprise de défense. On est dans un délire total, c'est-à-dire que tout est cassé, délocalisé, dérégulé. Quand on a une économie dérégulée, on fait ce qu'on veut. Et quand on est au sommet de la pyramide alimentaire, on mange beaucoup. Et il n'y a pas de régulation. Or, le problème de ce que dit Christine a raison. Il faudrait que Bah, non, en fait, on sait très bien que dans tous les domaines, l'écologie, les rémunérations, le respect du droit social, l'autorégulation des multinationales, ça ne fonctionne pas. Il faut une régulation.
Alors, non, non, mais moi je suis peut-être trop optimiste, mais j'aime mon optimisme. Sur la question, par exemple, de l'impôt sur le revenu européen, c'est une avancée qui a été obtenue par la France. Moi, je suis en plus patriote, sur la présidence française, sur l'OCDE, etc. C'est une avancée. Le sous-texte, juste, je termine et ensuite vous pourrez me répondre. Le sous-texte de ce que vous disiez, qui est très juste, et c'est tant mieux qu'on en parle, c'est que c'était délocalisé aux Pays-Bas et donc le l'avis n'était que consultatif. Ça pose la question, une fois encore, de l'harmonisation européenne, des règles européennes, parce qu'on est dans un espace où les biens et les personnes circulent librement, et donc il faut aussi que l'impôt, que les règles de fonctionnement des entreprises soient harmonisées. Moi, je vois plutôt les choses du côté positif, en me disant qu'il y a des avancées qu'il y a quelques années on n'imaginait pas, qui sont en train d'entrer en vigueur, et donc j'espère que demain on pourra avancer aussi sur cette question-là, sur la question du dumping fiscal, du dumping social
du droit,
et de l'harmonisation du droit au niveau européen.
Ça fait 60 ans que cette harmonisation fiscale est avancée pour les défenseurs de l'Union européenne. Oui. C'est demain.
Mais
c'est demain.
Vient d'arriver là, l'impôt sur le revenu européen, minimum de 15%.
Oui. Ça arrive. Il y a toujours le Luxembourg, il y a toujours le Liechtenstein, il y a toujours l'Irlande, il y a toujours les Pays-Bas.
Et bien, il faut continuer à négocier.
C'est-à-dire actuellement, tous les écrits européens organise le dumping fiscal en Europe. C'est organisé. Il faudra changer énormément d'articles dans les traités et dans les différents accords.
Mais il faut le faire.
Oui, mais c'est...
C'est la politique des petits pas.
C'est la politique des petits pas qui a été faite dans l'autre sens. C'est un dumping fiscal qui est organisé. D'ailleurs, le précédent président de la Commission européenne, un certain Jean-Claude Juncker, je vous rappelle, était Premier ministre de Luxembourg, quand il a organisé, justement, pour le Luxembourg, ce dumping fiscal au niveau européen. Il faut arrêter de prendre les citoyens pour des...
Juste un dernier mot pour répondre vraiment et pour en finir avec l'auditrice. 4 400 euros, c'est donc la prime moyenne que vont toucher effectivement les salariés de Stellantis, sauf ceux qui seront les 2 600. C'est-à-dire que quand on multiplie avec les 12 000 salariés du groupe, ça fait une somme qui est moins importante, de 52 millions d'euros, qui est moins importante que la rémunération que va toucher au final Carlo Tavares. Donc, voyez,
il pourrait répartir un peu mieux, voilà, c'est ce que vous êtes en train de dire. Allez, revenons en France, on y était un peu. Ce matin, c'est un éditorial d'Yves Tréhard qui parle de cette France fracturée, dominée par la radicalité, avec entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et l'abstention. Alors, il termine son édito en disant « des colères aux racines certes différentes, mais qui peuvent se coaguler pour se faire entendre face à elle. Emmanuel Macron apparaît seul, sans alternative. Est-ce que c'est une nouvelle fracture dangereuse? Est-ce qu'elle est durable, provisoire? Et est-ce que la déconstruction est terminée? » Et à cela, je voulais ajouter, peut-être que vous avez écouté Frédéric Dabi ce matin dans le Grand Matin Sud Radio, qui évoquait la balise IFOP fiduciale, dans laquelle ils interrogent les Français sur les traits d'image comparés entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et force est de constater que Marine Le Pen l'emporte sur Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets, la plus capable de gérer la question des retraites, la plus capable d'améliorer le pouvoir d'achat des Français, connaît le mieux la vie quotidienne et la préoccupation des Français, la plus capable de garantir la sécurité des Français contre le terrorisme. Emmanuel Macron, lui, est largement devant en ce qui concerne la stature présidentielle, les intérêts de la France à l'étranger et la fin de la crise en Ukraine. Mais tout de même, quand on compare, puisqu'il y a un comparatif avec les items précédents, elle a gagné sur énormément de points. Donc on va avoir une France, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, qui va être vraiment fracturée. Okay. Je ne sais pas qui... Jérôme Ripoul.
Oui. Il est évident que là, à mon avis, l'écart qui sera celui qu'on verra au soir du second tour sera sans doute beaucoup moins élevé. Et moi, je ne parie sur rien parce qu'il y a effectivement une colère. Quand Tréhard parle de colère, je crois que la problématique d'Emmanuel Macron aujourd'hui, par rapport à ses 5 années précédentes, l'élection 2017, c'est qu'on le connaît maintenant. On sait ce qu'il est. On sait là où il peut varier. Et donc, les gens, par rapport à 2017, où on pouvait prendre finalement les traits de caractère qui nous plaisaient le plus, bah là, les gens peuvent prendre les traits de caractère qui plaisent le moins chez lui. Et donc, réarmer leur colère et leur ressentiment à son égard. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Et c'est ce qui me fait dire que c'est pas étonnant que Marine Le Pen, quand on fait cette comparaison, apparaisse sur certains items qui ne sont pas les items présidentiels, quand même, enfin, pas tous les items présidentiels. en tout cas, quand on voit la présidence à l'étranger, Macron est plus avancé, mais en tout cas, fait une progression qui est significative. Et donc, ça veut dire que derrière, si on a une présidentielle avec, vous l'avez dit, une France divisée, les législatives seront très, 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 très complexes.
Ouais. C'est un fait sociologique. Ça a été suffisamment dit par des gens comme Christophe Guillouy, et les mêmes analyses aux États-Unis et en Grande-Bretagne. On peut reprocher beaucoup de gens, beaucoup de choses à ce que font les gens, mais la réalité est là. On arrive aux 10 millions de pauvres, on a 300 000 personnes qui dorment dans la rue, on a 5 millions de personnes mal logées, 8 millions qui font une demande d'aide alimentaire, et 500 fortunes qui tiennent 43% du PIB. Ah oui, il y a une grosse fracture. Hein. Là, c'est même pas une fracture, c'est les abysses. Donc, bien évidemment, avec la crise de l'énergie antérieure à la guerre en Ukraine, ça n'allait déjà pas bien pour la moitié des Français qui gagnent moins de 2000 euros. Ça n'allait pas pour toute une série de PME qui se retrouvent avec des factures pas possibles avant la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron incarne quelque chose. Il est quand même très néolibéral, il est pour la dérégulation, il est pour l'Union européenne, c'est ce qu'il est. Et donc, c'est la continuation de 40 années. Alors, ça ne veut pas dire, je pense que la grande erreur est de croire que Marine Le Pen serait sociale. C'est juste qu'elle apparaît sociale parce que l'autre est tellement antisociale qu'elle apparaît sociale. Mais je ne suis pas sûr que sa politique varie considérablement si jamais elle est élue présidente. Et donc, oui, il y a une fracture. Et l'exemple même, il est incarné par Macron. Emmanuel Macron qui rencontre des gens, il sort enfin dans la rue, il fait sa campagne, et il tombe sur une soignante qui lui dit « Ah ben l'hôpital ça va pas, on ferme les hôpitaux, les maternités, ceci, cela », il dit « Monsieur, nous on finance beaucoup, ça n'a jamais été autant financé », donc c'est l'énarque qui répond « Monsieur, dans le dossier c'est bien écrit que c'est super », elle lui dit « Mais non, moi je suis soignante, ça va pas à l'hôpital », il dit « Mais madame,
vous n'êtes pas
dans le réel ». Mais il est fou, en fait.
Non, mais attendez, vous allez encore me contraindre à devoir défendre le président de la République. Pardon, mais il faut voir d'où on part et où est-ce qu'on est. Vous ne pouvez pas dire qu'Emmanuel Macron a un bilan qui est antisocial. Enfin, moi, pardonnez-moi, il y a eu le dédoublement des CPCE1, il y a eu le Ségur de la Santé que vous mentionnez, il y a eu le 100% santé, le fait qu'on puisse accéder à des prothèses auditives, des lunettes, etc., remboursées par la Sécurité sociale, il y a eu la fin de la taxe d'habitation, il y a eu un certain nombre de mesures. Ensuite, que ça ne soit pas suffisant, j'entends complètement, et cette dame a raison de dire que les conditions de travail à l'hôpital sont très difficiles. Il se trouve qu'avant même la pandémie, il y avait eu un plan qui s'appelait Ma Santé 2022. De mémoire, je crois, c'était 15 milliards pour l'hôpital. Est-ce que c'est suffisant? Non. Entre-temps, il y a eu ce fameux Ségur de la Santé. Je parle aussi de mémoire, je crois que c'est entre 185 et 213 euros par soignant. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais il y a des avancées. Là où je peux vous rejoindre, c'est qu'en effet, depuis 40 ans, depuis 40 ans, on a fait des promesses qui n'ont pas été tenues de tous les côtés. Par exemple, je crois que beaucoup de gens l'ont oublié ici, moi le premier, le prélèvement à la source, aujourd'hui on l'a complètement accepté, on part du principe que ça y est, c'est comme ça. Ça fait 40 ans que et la gauche et la droite disaient nous voulons le faire et qu'elles ne l'ont pas fait. Donc je ne peux pas vous laisser dire que c'est antisocial. Ensuite, là où je vous rejoins sur la question de la fracture, et moi je pense qu'il y a une crise majeure des consentements à l'État, à ce que représente l'État, comment est-ce qu'on gouverne, à la démocratie, aux valeurs, on parlait de la laïcité tout à l'heure, à la représentativité des institutions. Et là où j'ai eu un regret, c'est que jusqu'à l'avant-premier tour, il n'y avait quasiment pas eu de campagne présidentielle. Moi, je considère que tous les 5 ans, c'est un peu la catharsis démocratique, surtout après les Gilets jaunes. Ouais. C'est le moment de tout mettre sur la table et d'essayer de repartir sur 5 années, on ne va pas dire résolument différentes, mais en tout cas plus constructives. Là, on a enfin un semblant de débat de fond entre les deux tours. N'oublions pas, on commence beaucoup plus qu'avant le premier tour. Moi, j'espère qu'on n'oubliera pas les questions institutionnelles, et je suis d'accord, les Gilets jaunes exprimaient un ras-le-bol, pas que de l'attaque sur les carburants de François de Rugy, mais des 50 dernières années où ils avaient exprimé un ressentiment, le sentiment d'être oublié, abandonné, et donc il faut le traiter.
La réponse, Christine, je donne la parole, la réponse d'Emmanuel Macron sur l'hôpital, elle est absurde. Quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, il ne peut pas dire, on a foutu 15 milliards, tout va bien. Ce n'est pas vrai. Les services ferment, vous avez des hôpitaux...
Il a dit tout va bien, je ne suis pas sûr.
Enfin, madame, on vient de mettre, je ne sais plus quel est le chiffre, 15 millions, quand vous voyez aujourd'hui 15 milliards, pardon, quand vous voyez dans quel état se trouvent aujourd'hui les services de la PHP, c'est catastrophique.
Vous vous souvenez qu'avant le Covid, il y a eu un an de grève des hôpitaux.
Christine, je vous donne la parole, on doit marquer une petite pause de pub et on vous redonne la parole tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Petite parenthèse avant de nous donner la parole, Christine, je vois la blague ukrainienne du jour qui va vous plaire. Georges Kuzmanovitch, touché par les missiles de l'armée ukrainienne, le Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, vient d'être officiellement requalifié en sous-marin par l'état-major.
C'est pas mal.
Voilà.
C'est pas un missile ukrainien, c'est un Neptune. Donc voilà. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais...
C'est comme ça. Mais... Christine, nous parlons donc de cette, de cette fracture, de cette France en colère. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Déjà, par rapport à la séquence, je voulais rebondir sur la séquence avec cette femme et Emmanuel Macron. Bon, c'est le style aussi de la campagne d'Emmanuel Macron qu'il expose. Il prend beaucoup de risques à aller comme ça au-devant des Français et se retrouver confronté. Enfin, je veux dire, là, on a deux oppositions très frontales. On a un candidat qui va au charbon, qui va au contact, qui prend ce risque-là. Ça marchera ou pas, on verra le 24. Est-ce qu'il va pouvoir retourner son image de cette façon-là? Et puis après, vous avez le choix de la candidate qui, elle, ne fait que des visites de courtoisie ou choisit ses journalistes quand elle fait les confs de presse. Donc, forcément, elle est moins chahutée, on a moins des séquences comme ça qui donnent le sentiment de connaître la personnalité de la personne. Moi, c'est sur la fracturation que je voulais réagir tout à l'heure, notamment sur le choix en gros, aujourd'hui, la fracture, c'est par exemple pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est de se dire dans leur tête, et on les entend, je suis prêt à voter Marine Le Pen, par exemple. Mais je me dis, mais... Qu'est-ce que le sens profond de leur bulletin veut dire? Parce que s'il y a bien deux oppositions complètes sur certains sujets fondamentaux, je pense simplement, par exemple, justement, on parlait tout à l'heure de la place des femmes, du port du voile, de l'islam en France, tout oppose LFI et le RN.
Ça, c'est sûr.
Et ils vont se retrouver avec un bulletin de vote commun.
Absolument.
Peut-être mettre Marine Le Pen au pouvoir avec tout ce que ça implique derrière aussi en tous les cas, ce séisme politique. Et ça veut dire qu'on va se retrouver dans la même position, encore pire qu'avant. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans ce genre. Et donc, je ne voudrais pas aujourd'hui qu'on se retrouve dans une situation où la fracturation soit totalement... on ne puisse plus revenir en arrière. Alors, il y a un autre élément aussi qu'il faut tenir compte, c'est qu'on entend aussi beaucoup dire aujourd'hui, ça va peut-être nous amener au septennat, même si on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on entend beaucoup dire on compte sur les législatives pour rectifier, pour contrebalancer.
Donc ça, c'est un fait nouveau, qui
peut être très dangereux
avec aucune majorité.
Ouais. Avec aucune majorité, donc je ne sais pas trop comment on va sortir de ce jeu-là. Je peux vous dire que les électeurs vont sortir éreinté de ces débats qui n'en finissent plus et dans lequel on n'a pas de vision alors qu'on est en pleine crise écologique, démographique, en Europe, etc. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est extrêmement fragilisé par toutes ces fracturations.
Oui,
Jérôme, par rapport à ce que vous disiez, l'électeur LFI qui pourrait voter Rassemblement National, on peut refaire de nombreux reproches sur les défauts multiples, variés et fleuris de Jean-Luc Mélenchon, mais cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'il n'a pas averti ses électeurs sur la différence qu'il y avait entre le voter Macron et voter Marine Le Pen. Donc ça, sur ce point-là, il est clair. Après, si ses électeurs, dont il ne maîtrise pas les voix, il faut quand même le rappeler, font ce vote-là, c'est qu'effectivement, pour en revenir à l'édito de Tréhard, il y aura une colère en France qui a été complètement sous-estimée. Et ça,
et un rejet de la personne et un rejet de la personne. De la
il y en avait une en 2012 Sarkozy. Avec Sarkozy. On n'a pas, il n'y a pas eu une adhésion à François Hollande. Il y a eu un désamour.
Il y aura une colère aussi à contrario avec un autre avec si Marine Le Pen.
Bien sûr, on est d'accord.
Mais sur Jean-Luc Mélenchon, vous disiez qu'il avait été clair. Moi, je trouve qu'il aurait quand même eu l'être un peu plus. Il a dit pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Il l'a répété quatre fois dimanche soir. Enfin, il ne dit pas, comme Hidalgo a dit, je voterai contre Marine Le Pen avec le bulletin Emmanuel Macron, parce que Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien que l'abstention et le vote blanc, hélas, dans les règles du jeu actuelles, n'ont pas d'impact concret sur le résultat de l'élection. Et justement, moi, je crois que beaucoup des gens et des jeunes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui leur plaît aussi, c'est la fameuse 6e République avec la représentativité renforcée des institutions. Donc, Jean-Luc Mélenchon, s'il était vraiment, alors c'est mieux qu'il y a 5 ans, mais s'il était vraiment engagé contre Marine Le Pen, il aurait dit, même il aurait pu dire bouchez-vous le nez, allez voter avec le bulletin Emmanuel Macron. Là, je crois qu'il prend quand même un risque, même si en effet, il n'est pas propriétaire des voix de ses électeurs et c'est heureux. Mais il aurait pu dire, à titre personnel, je mettrai le bulletin Emmanuel Macron dans l'urne.
Moi, je pense que ça aurait pu être clair. Ne votez pas Marine Le Pen.
Oui, mais pas un bulletin, c'est voter blanc. Hélas, aujourd'hui, ça ne change pas le résultat.
Non, mais voter blanc et tout le monde n'est pas d'accord sur qui sera favorisé par l'abstention, le vote blanc.
Il y a 43% apparemment, et le sondage
qui est pas ressorti aujourd'hui sur 43% des électeurs qui voteraient pour Macron de.
C'est une règle statistique de base. Hein. Celui qui est avantagé ou celle qui est avantagée par le vote blanc, c'est celui qui passe devant.
Celui qui passe devant,
il est avantagé par le vote blanc, parce que ça renforce son vote, enfin le fait qu'il soit devant. Bon.
Mais on ne sait pas qui
va être devant. Donc a priori, ça renforce le vote blanc.
Emmanuel
Macron. Sinon une remarque, je pense que les gens effectivement le vote pas plus qu'un autre, les votes
ne lui appartiennent.
Qui se sont mis derrière Jean-Luc Mélenchon ne lui appartiennent. Et je constate que les gens en ont ras-le-bol des injonctions. Et des anathèmes, parce que là c'est anathème et injonction dans les deux sens. Et c'est vraiment insupportable. Les citoyens décideront en âme et conscience. Un point qui moi personnellement m'agace, c'est le côté à ce moment-là, il faut interdire le RN, point.
À chaque fois,
second tour, défend la République.
C'est un peu ce qu'on entend depuis quelques jours.
Et c'est un risque réel de continuer de le faire de cette manière-là. D'appeler à voter Emmanuel Macron comme quoi il serait le défenseur de la République contre le fascisme, c'est un risque considérable qui est pris qu'elle finisse par gagner. Parce que c'est une injonction qui ne repose pas sur grand-chose, en réalité. Parce que moi, je veux bien qu'on me paye, qu'on m'explique en quoi, après ces 5 années, Emmanuel Macron est représentant de la République française. La République française...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Article 3, l'article 3 de la souveraineté, du titre 1 de la Constitution, c'est la France. La souveraineté de la nation procède du peuple qui s'exprime par référendum et par ses représentants élus. Elle ne procède pas d'une construction non voulue par la nation, d'une souveineté européenne qui ne représente
enfin,
qui
non voulue, traité ratifié, donc souveraineté respectée. C'est pas des traités qui ont été adoptés.
Le référendum en France a été voté contre, je vous rappelle.
Quand on dit ça, on nie aussi qu'il y a 8,5 millions de personnes qui ont voté Emmanuel Macron et qui l'ont placé en tête au premier tour.
C'est juste que les gens votent parce qu'ils préfèrent Macron et son programme, ou qu'ils votent Marine Le Pen parce qu'ils préfèrent son programme.
Bah, est-ce que c'est du vote Le Pen parce qu'ils n'ont pas essayé Marine Le Pen?
Oui, c'est ça. C'est pas forcément un vote d'adhésion. C'est surtout pas un vote d'adhésion.
Dans notre démocratie, c'est pas bon, parce qu'on risque d'avoir une majorité de votes d'opposition dans un cas.
Au premier tour, on peut estimer qu'il y avait quand même une partie de vote d'adhésion aussi.
Non, il y a eu un vote utile. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai. Quand on voit le score de Valérie Pécresse, il y a beaucoup de gens qui voulaient peut-être voter Pécresse et qui se sont dit.
Il ne s'agit pas de dire que le Rassemblement National devrait être interdit. Au contraire, moi, je combats ces idées, mais j'ai toujours considéré qu'il devait être dans le débat. Par contre, ce qui est à l'œuvre en ce moment, c'est juste de rappeler, et on en parlait la semaine dernière sur ce plateau, le Rassemblement National de Marine Le Pen n'est pas différent du Rassemblement National de son père. Qu'on veuille voter pour... Front National de son père. Qu'on veuille voter pour, moi, comme vous, je respecte la souveraineté populaire, et donc les gens choisissent en leur âme et conscience. Mais ce qu'il faut rappeler, et ça a été dit tout à l'heure, les journalistes, quand on choisit les journalistes qui veulent nous répondre, quand on brandit une pancarte dans une conférence de presse et qu'on la tire en sortant, c'était hier, sur la relation internationale.
C'est vrai pour Emmanuel Macron qui a refusé la candidature.
Les deux candidats.
Je trouve ça de la part d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen complètement indécent.
Il s'agit simplement de rappeler quel est le projet de Marine Le Pen, c'est l'extrême droite. Ensuite, il y a un courant dans la société, les gens votent.
Mais en disant ça, et on a eu ce débat hier, en disant c'est l'extrême droite, le fascisme, elle va manger des petits-enfants.
Je
ne
dis pas jusque-là.
Non, mais ce qu'a dit, les pauvres vont mourir, ce qu'a dit Gérald Darmanin, je ne suis pas sûre que ce soit des arguments qui soient...
C'est contre-productif.
Ce qui est sûr, c'est que les classes populaires seraient les premières victimes de son programme économique. Ça, c'est une réalité.
À suivre dans un instant, André Bercoff. Très bonne journée sur Sud Radio.